Bonsoir à tous, je m'appelle Vincent, je suis Australien, mais mon sang est français. Je suis issu d'une famille française à Sydney, en Australie, et puis mes parents se sont rencontrés là-bas dans la communauté française, ils se sont mariés, ils ont fait beaucoup d'enfants, je suis le deuxième, et voilà que maintenant, depuis bien de longues années, je suis en visite ici dans la région, ma région, parce que mon père est roubaisien d'origine. Mais maintenant, après 34 ans en France et puis à l'île de la Réunion, nous avons retrouvé notre pays, Australie, en 2020. Mais nous revenons comme ça vous dire bonjour chaque année et avoir la joie de pouvoir partager ces soirées, ces quelques rencontres ensemble. Voilà, donc si vous êtes là pour la première fois, c'est vrai que c'est une découverte. Les gens cherchent des points de repère quand ils viennent pour la première fois. Il n'y en aura probablement pas pour vous si vous ne connaissez pas. Mais tout ce qu'on peut espérer, c'est que vous allez être détendu et que vous allez pouvoir suivre, écouter, recevoir peut-être, non pas de moi, mais de la part de Dieu lui-même qui est présent parmi nous. Voilà, donc ce soir, d'abord, avant d'ouvrir le sujet que j'aimerais aborder avec vous, j'aimerais quand même vous partager une joie pour moi, c'est que enfin, ma biographie est sortie mardi, celle en français, version française. Donc il y a quelques mois, c'était la version anglaise qui est sortie. J'espérais avec mes éditeurs de pouvoir sortir la version en français rapidement pour pouvoir vous le présenter. C'est chose faite. Mardi, trois cartons sont arrivés. Et puis, j'en ai amené pour vous ce soir, si ça vous intéresse. Alors, je l'ai intitulé « Je serai avec vous ». Comme a dit un ami pasteur en Australie, il a dit « C'est vraiment un livre de mec ». Et j'ai dit « Pourquoi tu dis ça ?» Il m'a dit « Parce que c'est des chapitres qui sont courts. Les hommes aiment des chapitres qui sont courts. Ils n'aiment pas long, ils aiment pas trop lire de longs chapitres et puis de livres très volumineux. C'était le but de ce livre, en fait. C'était pour que ce soit une lecture facile, une lecture qui va vous motiver. Les échos que j'ai eus, c'est que j'ai réussi mon coup avec ce livre. Si ça vous dit, j'ai même un chapitre où je parle longuement d'Antoine et Christiane. Tu as vu ça? Donc, tout est bon, hein? Il n'y a pas de critique là, Antoine. Hein? Tu n'as pas encore lu, mais tu vas le lire. En tout cas, c'est vraiment. C'est qui l'aurait cru, Denise et moi, quand on s'est mariés il y a 45 ans, qu'on allait vivre cette fabuleuse aventure qui est la nôtre, qui nous a amenés dans de nombreux pays du monde et qui nous a permis de consacrer peut-être la plupart de notre vie active ici en France, au milieu de nos chers compatriotes. Voilà, donc, c'était une histoire qui se méritait, je crois, d'être écrite. C'est chose faite maintenant. Donc, vous avez la possibilité de prendre un exemplaire. Je l'ai fait finalement au prix coûtant, ce que ça nous coûte. On veut le répandre au maximum. Il est à 10 euros. Donc, c'est Anne qui sera là à la table. J'ai aussi d'autres livres qui sont à votre disposition que j'ai écrits. Il y en a un qui est sorti seulement il y a quelques mois concernant une bonne église. Qu'est-ce qu'une bonne église? Voilà, donc ça c'est pour la pub de la soirée. Maintenant passons au film du mercredi soir. Alors, mon thème ce soir, c'est un thème qui touche, je crois, peut-être plus près l'esprit français que d'autres pays que j'ai connus. Parce que en France, on se félicite d'être cartésien, n'est-ce pas? Et cartésien, c'est quoi? Cartésien, c'est d'être des disciples de Descartes. Ça veut dire que je pense donc je suis. Voilà. C'est toute une question de la réflexion, de l'intellect, de la capacité du raisonnement, de la logique. On a une approche qui est assez une approche grecque, une approche philosophique, une approche cérébrale par rapport à la vie, qui parfois passe à côté de la réalité du cœur, et encore plus peut-être la réalité de l'âme. Donc, j'aimerais aborder avec vous ce soir le thème que j'ai intitulé « Perdre la foi ou la retrouver aujourd'hui ». Peut-être qu'on connaît plus de monde qui a perdu la foi que de ceux qui ont retrouvé la foi. Je crois que dans notre pays, c'est assez facile de perdre la foi, surtout quand on a un bagage intellectuel et puis on raisonne d'une façon scientifique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous tracer un chemin qui va vous permettre de retrouver la foi. Alors, premièrement, j'aimerais vous dire que la question de la foi, c'est quelque chose qui est tellement naturel à nous, on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. J'ai lu une citation d'un homme qui a finalement résumé la situation que tout le monde a la foi d'une façon ou d'une autre. Chez l'être humain, c'est quelque chose qui nous est naturel. Il a écrit ceci. Tout est une question de foi. Par exemple, on prend rendez-vous chez un médecin dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Une fois dans son cabinet, on fait tout ce qu'il nous dit de faire. Il nous tend une ordonnance que nous n'arrivons pas à lire ou comprendre. On la présente à un pharmacien que nous ne connaissons pas, lequel nous vend des médicaments qui nous sont totalement inconnus, et nous les avalons sans le moindre souci. Ça demande la foi pour pouvoir faire tout ça, n'est-ce pas? Alors, je peux vous dire que moi-même, j'ai perdu la foi. Ça vous choque peut-être, mais j'ai besoin de m'expliquer. J'ai perdu la foi au Père Noël. Ah oui? J'aimerais vous le dire carrément, je l'avoue, aujourd'hui, je le dis publiquement, j'ai perdu la foi au Père Noël. Pourtant, mes parents, ils ont tout fait pour qu'on y croit. Ah oui, on était 6 enfants, et quelque part, mes parents, ils voulaient que pour nous, le Père Noël était quand même quelque chose d'important. On a entendu en tant qu'enfant, on a entendu parler de lui, on a cru en lui. À Noël, on lui écrivait un courrier comme quoi on avait passé une bonne année, on était bien sages et qu'on méritait un beau cadeau. Voyez. Et donc, on le voyait à la télé, on le voyait dans des films, surtout autour de Noël. Et on voyait aux centres commerciaux aussi, en temps de Noël, il y avait des Pères Noël. Le doute commençait à s'installer quand on commençait à comparer les Père Noël d'un centre commercial à un autre. Vous voyez, ils n'étaient pas tous les mêmes. Il y en avait un qui était plus gros que l'autre. Il y en a un qui avait des lunettes, l'autre n'avait pas. Alors on commençait à dire, est-ce que c'est le même bonhomme? Pas sûr. Donc ça commençait à, pour nous en grandissant, ça commençait à semer un certain doute et on commençait à raisonner. C'est ça le problème. C'est que quand on est un enfant, on prend tout, mais quand on commence à grandir, on s'approche de l'âge adulte et puis progressivement on raisonne, vous voyez. Et le doute arrive lorsqu'on commence à raisonner. Et c'est la foi au Père Noël allait seulement continuer si on pouvait le voir de nos propres yeux descendre notre cheminée la veille de Noël. Alors là, oui. Mes parents et surtout ma mère voyaient que la foi au Père Noël était en train de trembler chez ses enfants. Donc, pour nous convaincre, eh bien, la veille de Noël, elle mettait une tasse de thé pour le Père Noël avec une assiette et un petit gâteau dessus, voyez. Et le lendemain, quand on descendait à 5 heures du matin, vraiment surexcité pour voir les cadeaux, qu'est-ce qu'on découvrait? On découvrait une tasse de thé bu et des miettes de gâteau sur l'assiette. Alors voilà la preuve qu'il nous fallait. Le Père Noël existe. Et tout ça, ça fonctionnait 2-3 ans, jusqu'au jour où le jour de Noël, on est descendu et on a vu la tasse vide et les miettes sur l'assiette, sauf que sur la tasse, il y avait des traces du rouge à lèvres de ma mère. Alors là, c'était fini. C'était fini. Voyez, on arrive à un certain point quand on nous fait croire des choses qu'on a besoin de plus que simplement ce qu'on a entendu. Quelque part, on a besoin de faire une expérience personnelle, une expérience à soi. Oui, parce que j'ai jamais fait cette rencontre avec le Père Noël, eh bien, j'ai perdu la foi. Vous voyez? Maintenant, la foi en Jésus, c'est un peu pareil. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand on grandit, on entend nos parents, on entend d'autres qui parlent de Jésus, on ne met pas ça en question, on accepte, on suit Noël, la naissance du Christ, Pâques, sa mort, sa résurrection, on apprend les histoires de Jésus sans du tout penser que peut-être ce n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez? Et donc on arrive à un point où ça ne suffit pas juste de croire parce qu'on a entendu d'autres nous en parler. On commence à raisonner, nous aussi. Et à partir de ce moment-là, la question de la foi va se gagner ou va se perdre en fonction de ce que nous vivons, de son expérience personnelle. Quelque part, il faut que nous aussi, nous voyons Jésus descendre dans notre cheminée chez nous pour croire en lui. Il faut que ça se passe chez nous. La foi fondée simplement sur ce qu'on a entendu ne subsistera pas devant les attaques des doutes que nous allons connaître. Et si elle tient, elle est faible, elle est abstraite et ne changera pas du tout la vie. Mais si on fait une expérience avec Dieu, alors là, ça change tout. L'apôtre Paul, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament de la Bible, a été un homme qui avait la foi, mais pas en Jésus. Il avait la foi en Dieu, selon l'Ancien Testament, selon la religion des Juifs. Il était en fait acharné. C'était un homme qui était très instruit. Il avait étudié auprès d'un des grands savants de l'époque, un certain Gamaliel. Et donc, il était lui-même quelqu'un qui était reconnu pour sa capacité, sa connaissance, son raisonnement. Et donc, son bagage intellectuel a fait en sorte que philosophiquement, il s'est opposé violemment à cette secte qu'il appelait les chrétiens. Et en plus, Christ surtout, la foi en Christ. Et tel était son acharnement qu'il poursuivait les chrétiens, même dans les villes en dehors de la Palestine, tels que Damas. Et là, c'était en route vers la Syrie, vers Damas, qu'il a fait une expérience qui allait complètement le bousculer parce qu'il rencontre Jésus. Jésus n'est pas venu comme il était venu pendant ses 3 ans sur la terre. Il est venu d'une façon puissante, surnaturelle, spirituelle. C'était un éclat du soleil, c'était une voix qui était prononcée du ciel. Il est tombé de son cheval, nous pensons que sa monture, c'était ça. C'est toujours une source de contradiction avec mon épouse. Elle a dit, mais il n'est pas marqué que c'est un cheval. Je dis, enfin Denis, ce n'était pas une moto. Non. Écoutez, si vous pensez que c'est un chameau, ben, vous pouvez le croire, ça n'a aucune importance. Pour moi, il est tombé son cheval, Denise. Voilà. En tout cas, c'était là, dans cette situation, qu'il n'avait jamais prévu. En fait, c'était quelque chose qu'il maîtrisait totalement jusqu'au jour où cette expérience du ciel l'a frappé, l'a foudroyé. Il a entendu la voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il a dit, « Mais qui es-tu ? Seigneur, qui es-tu ? » Et la voix a répondu, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, les écailles sont tombées des yeux. Tout d'un coup, il a compris la bêtise de sa vie. Il a compris qu'il s'était aligné contre celui qui était vrai. Quelle bêtise il avait fait. Et là, il a décidé de consacrer sa vie à aider les gens à découvrir la foi en Jésus. Je comprends ça. Je comprends ça parce que lorsque j'ai, moi-même, en tant qu'étudiant de fac, lorsque j'ai entendu la parole de Dieu prêchée et que j'ai été percuté par cette parole de Dieu, Moi-même, j'ai décidé de consacrer ma vie à faire connaître ce Jésus dont la Bible nous parle. Donc, je comprends son engagement. Mais quelle sera son approche? Parce que naturellement, c'était un intellectuel, Paul. C'était quelqu'un qui aimait les raisonnements. Est-ce que il allait jouer cette carte-là? Est-ce qu'il allait chercher par la logique, par l'intelligence humaine, d'essayer de faire passer philosophiquement la réalité de Jésus? Mais pas du tout. Paul avait complètement changé de perspective. Tout en étant un intellectuel, il a compris que ce n'était pas le raisonnement et l'intelligence humaine qui allait pouvoir toucher cette dimension spirituelle chez l'homme. Il a écrit ceci dans 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. « Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et puissance, afin que votre foi ne fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Force qu'il dit quand tu penses d'où il vient et ce qu'il a fait. Il a dit, je ne m'appuie pas sur la sagesse des hommes. Ça m'a laissé sans réponse. Ça m'a conduit à m'opposer à une vérité que je n'ignorais complètement. Il dit, non, mon message, ce ne sera pas fondé sur ça, mais sur une puissance de Dieu qui va pénétrer jusqu'au cœur d'un être humain. Il leur a dit, la logique humaine ne les aidera pas. Et ça, c'est là où nous, en tant que Français, nous sommes dans un désavantage très important. Pourquoi? Parce que nous aimons la logique. Nous aimons les choses rationnelles. Je me suis retrouvé en plein milieu d'un débat à Cambrai, pas loin d'ici, il y a quelques années de ça, où j'ai dit A plus B égale C. Et il y a un bon Français qui s'est levé, il a dit c'est faux. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, A plus B égale AB. Bon, réfléchissez un peu. Bon. Alors moi j'ai dit, A plus B égale AB, ça veut dire que 1 plus 2 égale 12. Bah oui, s'il raisonne comme ça, A plus B égale AB, ça veut dire 1 plus 2, ça fait 12. J'ai dit, mais j'ai un autre calcul, moi. Moi, mon calcul, c'est A plus B n'égale pas C, n'égale pas AB, mais avec Dieu, A plus B égale X. Ils m'ont dit, quoi? C'est quoi ça? Et j'ai dit, parce qu'avec Dieu, A plus B, eh bien, il y a ce facteur X que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, qui n'a pas une logique. Vous n'arrivez pas à faire A plus B égale X, parce que le X appartient à Dieu. Et là, ils ont dit, bon, on arrête. On ne va pas plus loin. Quelque part, on doit sortir de notre pauvre raisonnement qui nous ramène dans des complications inutiles et d'arriver à un point d'humilité où on peut dire on est dépassé par un Dieu qui est le facteur X dans la vie. Et quand on comprend ça, eh bien, on va arrêter de toujours poser la question pourquoi? J'ai des amis, quand ils ont adopté deux enfants de l'Ukraine, je crois que c'était de l'Ukraine, eh bien, les enfants sont passés par une phase, je crois que ça a dû être à l'âge de 5 ans, où c'était la phase pourquoi. Vous connaissez ça chez les enfants? Pourquoi? Pourquoi? Alors, ils disaient quelque chose, mais pourquoi? Pourquoi? Tout le temps, pourquoi? La phase des pourquoi chez les enfants. Alors, ça les énervait un peu, les parents, vous voyez? Toujours les pourquoi. Alors, finalement, ils ont repris le dessus sur leurs enfants et ils ont composé un petit chant. Et chaque fois que les enfants commençaient à dire pourquoi, ils répondaient avec le chant « Parce que, parce que, parce que, Parce que. Alors les enfants, ils étaient tout énervés. Parce qu'on jouait leur même jeu, tu vois. Ah, j'ai trouvé ça pas mal, ça. C'est ça. Tu sais, quand on arrive au point d'abandonner nos pourquoi, nos raisonnements, nos questionnements, eh bien, on peut plus facilement accueillir la réalité d'un Dieu qui ne se laisse pas contrôler dans nos boîtes à nous. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Dans nos schémas de pensée, dans notre logique, il devrait faire ça, parce que A plus B égale C. Dieu dit non. X. Paul parle à des Grecs. Les Grecs, c'est des philosophes. Et il dit maintenant, parce que les Corinthiens, c'était des Grecs. Il dit, je ne vais pas essayer de vous aborder avec de la philosophie. Je vais vous parler avec la démonstration de l'esprit. Il dit, pour croire en Jésus, il ne faut pas des arguments, il faut une expérience. Il faut que intérieurement tu sois attiré. Mais c'est quoi ça? Eh bien, je ne peux pas le définir. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai vécu. Tout ce que je peux dire, c'est que quand tu es attiré, il y a quelque chose en toi qui a soif. Il y a quelque chose en toi qui regarde autour de toi et tu es insatisfait. Et tu commences à dire, Dieu, si toi tu es la réponse à tout ça, eh bien j'ai besoin de te connaître. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a une démonstration du Saint-Esprit qui travaille en toi. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Il ne faut pas penser que, oh ben tu sais, je passe par une certaine phase mystique. Tu ne passes pas par une phase mystique. C'est Dieu qui est en train de te toucher. Nul ne vient au Père, nul ne vient à moi que si le Père ne l'attire, Jésus a dit. Quelque part, si tu commences à t'intéresser, si tu veux comprendre, si tu veux connaître, si tu veux autre chose dans ta vie que la pauvre vie que tu vis, eh bien là, c'est parce que tu es attiré intérieurement par le Saint-Esprit. Et là, c'est une œuvre de Dieu dans ta vie. Vous savez, on vit un peu dans le brouillard, dans une espèce de confusion. Les gens croient à tout et à n'importe quoi. Mais le jour où tu commences à t'ouvrir à la réalité de Jésus, eh bien, c'est comme une ampoule qui s'allume. Mais vous savez, aujourd'hui, on a des ampoules qui sont des ampoules économiques. Vous savez ça? Hein, ça coûte un peu plus cher, mais ça dure plus longtemps. Et avec une ampoule économique, eh bien, c'est pas « c'est ça prend un peu plus de temps, oui, mais ça allume bien. Nos ampoules, pendant des années, c'était des ampoules qu'on vissait, et puis après, on allume, et puis c'est comme ça. Et ça, c'est l'expérience de certains. À peine, ils découvrent, et puis la lumière éclate. Et il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est une belle lumière aussi, celle-là. Alors j'étais, il y a quelque temps, dans la belle ville d'Uzès. Est-ce que vous connaissez Uzès, dans le Gard? Jolie ville. Première duché de France, je crois. Et donc je faisais des réunions tout un week-end, vendredi, samedi, dimanche, à Uzès. Et dans la première réunion, il y avait une dame de l'église, de l'assemblée, qui amenait son mari. Son mari, pas du tout chrétien, bon français, avec ses raisonnements à lui. Et donc, mais il a accepté d'accompagner sa femme à cette première réunion du vendredi soir. Donc, il y a eu quelques chants, je me suis levé, j'ai fait ma présentation. Et puis, à la fin, le monsieur, il s'est levé et il est parti. Et je voyais qu'il n'était pas content. Bon, ça arrive. J'ai appris par la suite que sa femme, qu'est-ce qu'elle n'a pas pris dans la voiture? Et il l'a accusé de m'avoir appelé, d'avoir raconté sa vie, et que maintenant, eh bien, je le ciblais dans ma prédication parce que j'ai dévoilé sa vie. Alors, moi qui ne connaissais pas du tout ni le monsieur ni la femme, mais c'est la femme qui a tout pris, vous voyez? Alors, elle a dit, moi, je ne connais pas, j'ai rien fait. Alors, lui, il était sûr que, eh ben, elle m'avait appelé et m'avait tout raconté sa vie et que maintenant, je le ciblais dans ma prédication. Bon. Donc, je dis, bon, ben, écoute, essaie de retrouver la paix avec lui, hein, à la maison. Fais-lui à manger ou quelque chose, tu vois. Après ça, ça ira mieux. En tout cas, le samedi soir, je me suis demandé s'il allait revenir ou bien pas, ou bien si on allait voir la dame, ils ne sont pas venus. Le dimanche matin, j'étais à l'entrée, et puis j'accueillais les gens quand ils arrivaient, et qu'est-ce que je vois arriver? Mais la dame et son mari. J'ai dit, ah bon? Alors, j'ai salué la dame, et puis j'ai salué le monsieur, et lui, il ne m'a pas regardé. Il était encore en colère, il est passé comme ça devant moi. Mais il est là. Donc j'ai fait ma prédication, j'ai présenté les choses, et puis à la fin, je demande à ceux qui veulent s'engager à suivre Jésus-Christ. Et le premier à lever la main, c'était le monsieur. La femme, elle fait ça. Mais comment expliquer ça? Prenez un instant à réfléchir. Comment expliquer ça? Le gars, il était fermé, il arrive, il croit en rien, il est fermé, il repart vraiment énervé, en colère. 2 jours plus tard, il est toujours en colère, mais il revient quand même. Et puis maintenant, il donne sa vie à Jésus. Je l'ai retrouvé quelques mois plus tard, doux comme un agneau, avec un amour pour Jésus dans son cœur. Comment expliquer ça? Eh bien, c'est qu'il y a une démonstration du Saint-Esprit dans son cœur. C'est la seule explication. Si vous la voulez, l'explication, elle est là. Si vous n'en voulez pas, vous n'aurez jamais l'explication. Mais si vous pouvez accepter que Dieu est plus fort que nous, plus fort que nos raisonnements, plus fort que nos réactions, plus fort que nos colères, que Dieu peut pénétrer jusqu'au plus profond de nous et changer même nos colères, afin que nous puissions nous tourner vers lui. Alléluia. Il y a un homme qui s'appelle Nathanaël dans la Bible. Nathanaël, c'est un des 2 bons Français de la Bible. L'autre, c'est Zachée, dans son arbre. Mais Nathanaël, c'était quand même pas un tendre, hein, quand même. Parce que c'était un homme qui questionnait, qui était un peu arrogant quand même. Et il y a son copain, Philippe, qui vient le voir un jour, on a trouvé le Messie. Et il dit, quoi? On a trouvé le Messie? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est qui là ton Messie? Ben, c'est Jésus de Nazareth. Alors là, il dit, Nazareth, c'est un trou. Je suis allé une fois. Non, merci. C'est pas possible qu'un Messie vienne de Nazareth. C'est pas possible. Il se moquait de son ami. Il croyait même pas, même si c'est son ami, eh bien, il se moquait de lui. Il se moquait de cette ville de Nazareth. Il se moquait de ce Jésus qu'il ne connaissait même pas. Alors Philippe, il a eu l'intelligence de dire, écoute, moi, je ne vais pas essayer de défendre ni mon point de vue, ni Nazareth comme ville. Je ne vais pas essayer d'expliquer quoi que ce soit. Toi, tu dois faire ton expérience, mon ami. Eh bien, tu viens et tu vois. Quelle bonne réponse. Quelle bonne réponse, ça. Moi, je dis à tous ceux qui sont là en train de pleine réaction, eh bien, ne m'écoute pas, je ne donne pas d'explication. Viens simplement et vois et découvre pour toi-même. Et alors Nathanaël, il arrive, et puis il voit Jésus à distance, et puis il commence à se sentir un peu mal, vous voyez, parce qu'il sent qu'ici, il n'est pas tout seul, il y en a plusieurs, et puis là, il est un peu moins agressif. Et Jésus lui dit, toi, je t'ai vu sous l'arbre. Mais non, je ne sais vraiment pas ce qu'il faisait sous l'arbre. Mais apparemment, ce qu'il faisait sous l'arbre, c'était vraiment important. Parce que Jésus, il a dit, je t'ai vu sous l'arbre. il est dévoilé. Qui t'a dit? Et tout d'un coup, cet homme qui était au-dessus de tout ça, moqueur, arrogant, tout d'un coup, il dit, mais c'est vrai alors. C'est toi qui es le Fils de Dieu. Un tel changement en quelques instants. Est-ce possible qu'un homme puisse faire ça en quelques instants? Une femme puisse faire ça en quelques instants? C'est possible. C'est possible. Si dans ton cœur, tu entends Jésus te parler de toi, de ta vie, de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu, de la personne que tu es. Viens et vois. C'est la plus belle des réponses. C'est la réponse que quelqu'un vous a donnée ce soir. Viens et vois. Viens et entends. Et écoute. Écoute surtout ton cœur. Écoute surtout ce qui se passe en toi. Et c'est à ça que tu dois répondre. Un jour, un garçon jouait dans un parc avec son cerf-volant et ce jour-là, il y avait du vent. Il était content. Parce qu'avec son cerf-volant, il l'a lancé et le vent l'a pris et l'a fait monter, 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 monter. Si haut qu'il pouvait à peine le voir. Et pendant qu'il était là, avec la corde dans sa main, il regardait. Et puis il y a un homme qui a traversé le parc. Et puis il a vu le garçon, et puis il se demandait un peu, alors il a dit, « Alors mon grand, qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit, « Monsieur, je fais voler mon cerf-volant. » L'homme, il voulait plaisanter un peu avec le garçon, il dit, « Cerf-volant ? Mais moi, je ne vois pas de cerf-volant là-haut. » Il dit, « Mais comment est-ce que tu sais qu'il y a un cerf-volant là-haut ?» Et il me dit, « Oh monsieur !» Monsieur, je ne le vois pas vraiment parce qu'il est tellement petit, mais je le sens tirer sur la corde. Et parce qu'il tire sur la corde, je sais qu'il est là. Ah, il y a une bonne réponse. Bonne réponse. Et le monsieur, il est parti. Cet homme était un chrétien. Et quelques temps plus tard, il se retrouve à son travail et puis il parle avec un collègue. Mais le collègue était un dur à cuire. Il était un sceptique. Et dans la conversation, il dit, « Oui, mais toi chrétien, toi, tu crois en Dieu, toi ?»« Ben oui. » Et il dit, comment est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu là-haut, on ne le voit pas? Comment est-ce que tu sais ?» Et alors, le chrétien, il ne savait pas trop comment répondre. Et tout d'un coup, il s'est souvenu du garçon dans le parc. Il a dit, « Comment je sais qu'il y a un Dieu là-haut ?» Eh bien, parce que je sens tous les jours tiré sur mon cœur. Chers amis, on n'est pas des bêtes avec un cerveau. On est des êtres humains avec une âme. Et cette âme, on ne fait rien pour la nourrir. On fait tout pour nourrir notre corps. On fait tout pour nourrir notre cerveau. On ne fait rien pour nourrir notre âme. Mais Jésus est venu ce soir pour nous sauver, sauver notre âme. Alors ce soir, si vous avez des oreilles pour entendre et un cœur pour répondre, eh bien tout peut changer.